Mondial Sport.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir Mondial Sport, le deuxième service, la deuxième balle, celle du dimanche. Et oui, il y aura du tennis au programme puisque les huitièmes de finale de l'Open d'Australie ont débuté. Rendez-vous pour en parler en fin d'émission car c'est bien le football qui est à la une de Mondial Sport. Ce soir, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, bien sûr, mais il y a aussi du ballon rond en Europe. On reviendra notamment sur la victoire au bout du suspense d'Arsenal face à Manchester United en Angleterre. Du vélo, enfin, au sommaire. Événement en Afrique, la Tropical Amissa Bongo est de retour au Gabon. Le foot pour lancer Mondial Sport, l'exploit de la Côte d'Ivoire à l'occasion du CHAN en Algérie. Les éléphants locaux mal embarqués, mais qui se sont qualifiés finalement pour les quarts de finale du tournoi. Succès 3-1 contre l'Ouganda tout à l'heure. L'Ouganda pourtant leader avant la troisième et dernière journée de la poule B ce dimanche. La Côte d'Ivoire qualifiée donc, elle affrontera l'Algérie pays hôte au prochain tour. Quel défi! Qualifié également le Sénégal. Et en tête, qui plus est, les Lions se sont adjugés le choc contre la République démocratique du Congo, 3-0 toujours ce dimanche. Les Sénégalais connaîtront plus tard leurs prochains adversaires. Les réactions après les rencontres du jour, les déclarations avant les matchs de demain, le dénouement de la phase de groupe, vous suivrez ça notamment dans la matinale de RFI ce lundi matin. En attendant, Mondial Sport fait un petit pas de côté. On va vous présenter Alger, capitale évidemment de l'Algérie, pays hôte de ce CHAN 2023, une ville qui est bien sûr, accueil des rencontres du tournoi, car Alger, c'est une ville de football, comme il en existe peu, une ville de football par excellence dans la capitale de l'Algérie, comme à Londres par exemple. Chaque quartier a son club fétiche et l'attachement des supporters est viscéral. Reportage Thomas de Saint-Léger.
Chaque quartier aime un club de la naissance à la mort.
Et à Belcourt, quartier populaire du centre d'Alger où vit Achar, impossible de se tromper. Des murs au café, tout est rouge et blanc, les couleurs du CR Belouizdad, le CRB dans le cœur et dans la poche.
Et voilà le symbole de CRB, ne me quitte pas. Le porte-clé, il m'a offert la direction de CRB Madar. Aux couleurs du club rouge et blanc, CRB. Et le quartier Belcourt, c'est une équipe. C'est ça le charme du quartier.
Un quartier dont les héros de l'indépendance et du foot, parfois des deux, s'affichent en grand sur d'innombrables fresques murales. Hassen Lalmas, le charismatique, attaquant des années 60 et partout. Ici, au pays où le football est une deuxième religion, les gloires du ballon rond sont des demi-dieux. Une passion qui traverse les générations. À peine sorti de l'adolescence, Salah Eddine et ses amis connaissent déjà leurs classiques.
Il y a beaucoup de gens comme...
Neymar Kahba. Oui.
C'est ça, c'est, cette chanson elle est connue.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français?
C'est... les spectateurs de Shabab Belouizdad insultent les spectateurs d'un autre club, l'USMA d'Alger.
Ah ouais, la rivalité, c'est Belouizdad-USMA, c'est la guerre.
Oui, et encore Mouloudia.
Comme Paris-Marseille.
Voilà,
Voisins et rivaux, les clubs d'Alger sont aussi nombreux que les quartiers de l'immense capitale. 6 d'entre eux ont déjà remporté le championnat national, 4 évoluent encore en première division, sans compter tous les autres.
Line-up.
Yazid Ouaib est journaliste, mémoire du sport algérien. Il se souvient d'un temps où le football était encore un jeu.
Nous sommes dans un café. Ce café, en 72, il servait de cercle sportif. Je jouais dans un club de ce quartier qui s'appelait le CRVK, Shabab Riyadi Diokouba, club de Tibizan inférieur. J'étais junior. On venait se réunir dans ce café. On nous publiait la convocation, la sélection dans ce café sur un truc, une vitre. C'était le cercle sportif.
C'était aussi une autre époque. Bien des années plus tard, le professionnalisme est passé par là et des multiples clubs d'Alger. Seuls les plus solides se sont construits un véritable palmarès. En tête, le CR Belouizdad, ses 9 couronnes de champion, bientôt 10, si les Rouges et Blancs, actuels leaders du classement, enchaînent un 4e titre de suite. Mais quand on pose la question qui fâche, quel est le plus grand club d'Alger, Yazid Ouaib nous prend à contre-pied.
C'est le Mouloudia d'Alger, le MCA. Une bonne partie d'Alger est Mouloudia. Vous partez au sud algérien, vous allez trouver des supporters du Mouloudia. À l'Est et à l'Ouest, c'est pareil. D'ailleurs, prenez la liste des clubs, toutes divisions confondues. Un sigle ou un nom va revenir assez souvent. C'est celui de Mouloudia. Le Mouloudia d'Alger a été le premier Mouloudia.
Ça veut dire quoi, Mouloudia ?
Mouloudia créé la veille de la naissance du prophète. Vous avez le Mouloudia de Constantine, le Mouloudia d'Oran, le Mouloudia de Saïda, le Mouloudia de Bjaïa, le Mouloudia... Partout, il y a plein de Mouloudia. Je ne suis pas supporter du Mouloudia. Mais pour moi, le Mouloudia, c'est le plus grand club d'Alger.
Le Mouloudia bientôt opposé à Belouizdad dans le prochain grand derby algérois. Match bouillant prévu au début du printemps. Thomas de Saint-Léger, Alger RFI.
Le football en Europe, il est de retour sur les terrains. Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund, est entré au jeu à l'occasion de la rencontre de son club contre Augsbourg tout à l'heure, 16e journée de Bundesliga. Succès 4-3 du Borussia Dortmund. Sébastien Haller n'a pas marqué, mais l'important était ailleurs, notamment pour le magnifique public du mur jaune de Dortmund. Sébastien Haller de retour après des mois d'absence, éloigné des terrains à cause d'un cancer et d'une chimiothérapie. On lui souhaite de retrouver plus que le chemin des terrains, le chemin des filets à l'attaquant ivoirien. Sébastien Haller, qui est dans sa carrière est notamment passé par la Première Ligue, ce qui nous amène justement à accueillir dans notre émission Philippe Auclair en direct de Londres. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous et à toutes.
Le championnat anglais fait du neuf avec du vieux. Arsenal-Manchester United, c'était ce dimanche l'affiche de la 21e journée. Alors on s'en souvient, les deux clubs dominaient dans les années 90-2000 avant de pas mal décliner dans la décennie écoulée. Mais cette saison, ils sont clairement de retour, surtout Arsenal, leader et qui remporte sur le fil le choc face aux Red Devils 3-2. Les Gunners ont trouvé la faille sur le gong ou presque, au terme d'un match absolument magnifique. Je pense que vous n'avez pas fait le déplacement à l'Emirates Stadium pour rien, Philippe.
Non, un match dont je me souviendrai longtemps, un match l'ambiance absolument formidable et j'allais dire même au-delà des 90 minutes, le stade était encore aux trois quarts plein, 10 minutes après le coup de sifflet final, avec des supporters qui chantaient et qui applaudissaient les joueurs d'Arsenal qui visiblement ne voulaient pas quitter le rectangle sur lequel ils avaient brillé face à un excellent Manchester United. Et une fois de plus, on a vu les qualités de résilience de cette équipe d'Arsenal après l'ouverture absolument magnifique du score par Manchester United. À Marcus Rashford, Arsenal qui a su revenir par Edin Ketia, la doublure de Gabriel Jesus qui en est maintenant, je crois, à 6 buts en 6 matchs, ce qui est assez extraordinaire depuis le retour de la Coupe du Monde, et qui a également marqué le but de la délivrance à la 89e minute, après une attente qui a semblé interminable pour la VAR, et donc face à un très 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 bon Manchester United qui a confirmé les progrès accomplis récemment avec Erik ten Hag, Arsenal donc s'impose, un match très important dans lequel certains voyaient même une espèce de match du titre dans la mesure où ce mois de janvier c'est vraiment celui des tests pour les Gunners après le déplacement à Tottenham réussi, et puis il y a bien évidemment la double confrontation à venir contre Manchester City qui est donc à 5 points maintenant derrière les Gunners, mais les Gunners qui ont fait le trou sur Newcastle et Manchester United 3e et 4e et qui sont à 11 points, et ne parlons pas de Tottenham 5e et déjà à 17 points, donc les Gunners en ce moment sont sur une sur la lancée habituelle, avec un football à la fois très séduisant, mais aussi beaucoup, encore une fois, de résilience, de constance, de réactivité et de calme dans cette équipe, donc qui ressemble de plus en plus à un champion. Évidemment, tout ça dépend de la façon dont Manchester City va faire cette seconde partie de saison. Arsenal est exactement à la mi-saison, au passage, et leur total de points 50 est le 7e meilleur de l'histoire du championnat d'Angleterre, et donc ça remonte à 1887.
donc, ça en dit long sur les ambitions d'Arsenal, mais vous le disiez, Philippe Auclair, il y a Manchester City qui est toujours à 5 points, ça paraît beaucoup, mais Manchester City qui s'est imposé tout à l'heure, ce dimanche, n'est pas encore décroché. 3-0 contre Wolverhampton pour les Citizens. Et j'ai même pas besoin de vous donner le nom du buteur, parce que c'est évidemment le même homme qui inscrit les trois buts. Il est norvégien, il est grand, il est blond, il a les cheveux longs et il est toujours aussi impressionnant pour sa première saison en Première Ligue.
Oui, quatrième coup du chapeau pour Erling Haaland cette saison. Ce n'est pas mal. 25 buts en 19 matchs, ça signifie donc qu'à la 19, parce qu'il en a loupé un sur les 20 de Manchester City, qui a au passage un match de plus qu'Arsenal, il avait loupé un match, Erling Haaland, 25 buts en 19 matchs, C'est un but de plus que ce qu'avaient marqué Mohamed Salah et Son Heung-min l'année dernière pour terminer soulier d'or de la Première Ligue. Donc c'est assez étonnant. Vous ajoutez à ça 5 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, plus un but en Coupe de la Ligue, des statistiques absolument extraordinaires. Et quand on pense que Erling Haaland a été critiqué en public par Pep Guardiola la semaine passée, donc visiblement la critique a porté ses fruits, tout va bien pour lui et pour Manchester City qui donc avec 45 points et tout de même toujours à 5 points des Gunners et après avoir joué un match en plus. On attend avec énormément d'impatience bien évidemment le double rendez-vous entre ces deux équipes qui survolent ce championnat d'Angleterre.
Merci beaucoup Philippe Auclair d'avoir été en direct avec nous dans Mondial Sport. On vous retrouve très vite pour parler du championnat anglais, donc toujours dominé par Arsenal devant le City d'Erling Haaland, le prédécesseur, si je puis dire, de Sébastien Haller au Borussia Dortmund. Le Norvégien, on rappelle Sébastien Haller qui a retrouvé les terrains après son cancer, l'attaquant ivoirien. Fini l'Allemagne, fini l'Angleterre. On va parler Espagne dès à présent. Direction Madrid pour retrouver notre correspondant, le deuxième du soir, à savoir Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Voilà, qu'est tal Hugo?
Ça va très bien. Et vous aussi, puisque vous êtes devant un match qui n'a pas encore livré son verdict, celui du Real Madrid, champion d'Espagne et champion d'Europe en titre. Sur le terrain de l'Athletic Bilbao, le Real mène grâce à un certain Ballon d'Or.
Oui, Karim Benzema qui a marqué à la 24e minute. Ça fait toujours 1-0, on joue la 83e minute. Karim Benzema qui a marqué à la 24e minute, je le disais. C'est sur un centre de Valverde à Asensio qui rate sa tête, mais ça arrive sur un Benzema qui s'est reculé pour trouver le bon axe du corps pour marquer de volée. 9e but cette saison pour Benzema, son 228e but en Liga, son 18e but contre Bilbao et le 5e sur les 3 derniers matchs de championnat. Le Real qui est un petit peu mieux dans le jeu, hein. Il y a du mieux. La victoire de Villarreal jeudi en Coupe du Roi a été un peu une sorte de détonateur. C'est un match de toute façon très physique. Que ça se donne à 1000%. Il y a eu un gros temps fort de l'Athletic Bilbao, notamment avec les frères Williams, Nico Williams, l'international espagnol, et Iñaki Williams, l'international ghanéen. Ça n'a rien donné, mais ça quand même ça, on sent que Bilbao essaye de pousser pour son 125e anniversaire de son histoire pour arracher au moins le match nul.
Alors on rappelle, ou plutôt on dit, parce que je ne l'ai pas encore dit, que c'est un match de la 18e journée de Liga. Le Real 2e tente de ne pas laisser le Barça s'échapper. Le Barça leader, Pierre Chaperon, qui a battu tout à l'heure Retafe. Mais d'abord, un dernier mot sur le Real. Ce qui est intéressant, c'est le milieu de terrain du club de la Maison Blanche aujourd'hui. Un milieu de terrain avec un visage un petit peu différent de celui d'habitude.
Oui, c'est Camavinga en sentinelle, Ceballos et Valverde en relayeur. On pensait qu'il y avait les intouchables Modric et Kroos, et finalement non. Alors pour le Croate, on le dit fatigué en ce moment, même si là il est rentré en jeu depuis quelques minutes, depuis une dizaine de minutes je dirais. Un contre-coup de la Coupe du Monde hein, pour le numéro 10 madrilène. Il était absent jeudi en Coupe du Roi contre Villarreal, et pour l'Allemand il n'a pas du tout été bon. Il était même sorti très frustré de sa rencontre jeudi. C'est lui qui choisira dans les prochaines semaines s'il continue ou non le foot. Ce soir, il y a quand même une bonne note d'espoir, puisque les petits jeunes, si je puis dire, même s'ils ont 26 pour Ceballos, 24 pour Valverde et 20 ans pour Camavinga, et ben ils ont bien tenu la maison. Dans les médias espagnols, on est même dithyrambique avec Camavinga, qui ce soir a été plutôt à l'aise dans ce rôle de sentinelle, plutôt intéressant, plus vif, plus juste, plus précis, plus sérieux, le natif de Cabinda. Et puis, il y en a un qui revient de loin, c'est Dani Ceballos, auteur d'une très bonne rentrée. À voir si jeudi les trois renouvelleront leur contrat, ça, c'est moins sûr, puisque c'est quand même l'Atlético de Madrid qui sera contre le Real en Coupe du Roi.
Allez, le Barça, à présent, je vous l'ai dit, toujours leader. Le Barça qui s'est adjugé hein, il y a quelques jours la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Victoire 1-0 contre Retafe. Et là aussi, il y a des petits jeunes qui ne sont même plus vraiment des promesses et qui régalent. Pedri, notamment, le buteur du jour.
Oui, le buteur à la 35e minute sur un ballon perdu par Retafe au milieu de terrain. Rafinha qui s'enfonce sur son côté gauche et adresse un centre pour Pedri qui reprend directement 1-0. Ça en restera là. Ce soir en Espagne, on dit que c'est un Barça très résultadista, c'est-à-dire qui cherche plus les trois points que la beauté du geste. Ça arrive très peu souvent du côté du Barça, ce genre de choses. Mais bon, ils ont quand même gagné contre le 16e du classement. Sur le niveau de jeu, même Xavi a reconnu en conférence de presse après la rencontre que c'était pas très très beau à voir, puisque il dit ce soir que la victoire est très importante, même si son club n'a pas été au mieux de sa forme. Un Retafe qui a d'ailleurs été dangereux en fin de première mi-temps, quand Borja Mayoral s'est retrouvé contre Ter Stegen en face à face gagné par Ter Stegen. Et puis dans le temps additionnel de la deuxième période, quand Latassa sur coup franc totalement laissé seul par Busquets qui se match une tête bien captée encore une fois par l'Allemand Ter Stegen.
Ter Stegen, donc homme du match. Le Barça en tête de la Liga, 3 points d'avance sur le Real Madrid. 17 matchs pour les deux équipes. On est encore loin du dénouement dans cette Liga. Pour vous, c'est fini en revanche ce soir. Mon cher Pierre Chaperon, merci d'avoir été en direct et on vous retrouve très vite sur les antennes de RFI.
Traversant l'équateur, voilà les cyclistes qui se donnent de tout cœur. Du fond de l'Afrique, tout près de l'équateur, dans un décor magique, ils avancent tous en cœur.
Et voilà une musique que les fans de la Petite Reine vont être ravis d'entendre et de retrouver. Vous l'avez compris, on parle vélo à présent dans Mondial Sport. On parle de la Tropical Amissa Bongo qui est de retour après 3 ans d'absence. La faute au Covid, à la pandémie. Départ demain lundi au Gabon de la 16e édition d'un tour que vont suivre nos envoyés spéciaux qu'on retrouve tout de suite, Denis Chastel pour les moyens de retransmission et Olivier Pron au micro. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Hugo Moissonnier et bonsoir à tous.
Le retour de la Tropical Amissa Bongo, il est d'autant plus important et il était d'autant plus attendu qu'il s'agit tout simplement d'une des deux plus grandes courses en Afrique.
Avec le Tour du Rwanda, bien sûr, qui débutera dans un mois et qui, lui, avait pu faire face aux différentes mesures Covid imposées en 2021 et 2022 par l'UCI aux organisateurs de tours partout dans le monde. Ce que n'avait pas été en mesure de faire, ceux de la Tropicale, le Gabon, sa géographie, ses routes compliquées ne s'y prêtaient pas. 2 éditions annulées donc, mais la course équatoriale est bien de retour pour 8 jours. Et 7 étapes à partir de Bitam dans le nord dès demain, pour la plus grande satisfaction d'abord de son coordonnateur général, Benjamin Burlot.
Après 2 ans d'absence qui nous ont tous immobilisés en dehors du pays ou dans nos maisons respectives, on est tous très très contents de revenir sur le territoire gabonais pour mettre en place cette course qui est probablement l'une des plus belles d'Afrique. On n'est pas tout seul à être content. En fait, toutes les parties prenantes sont extrêmement heureuses de ce retour. On a eu ça avec le retour des équipes sportives quand on a lancé les invitations. Toutes les équipes nationales ont répondu en moins de 24 heures. Les équipes professionnelles qui avaient déjà un calendrier ont aussi trouvé de la place pour justement venir sur la Tropicale. Donc on a un très beau plateau sportif. Ici, même chose, les populations attendaient qu'une chose, c'était le retour de la Tropicale, surtout en province où il n'y a pas eu énormément d'activité malgré la réouverture après le Covid.
Benjamin Burlot, coordinateur général de la Tropicale Amissa Bongo, la menace Covid est éloignée. Benjamin Burlot et son équipe, Olivier Pron, ont donc invité 15 équipes à participer à la course.
10 africaines, notamment l'Érythrée, considérée comme le très haut du plateau africain, le Rwanda, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le petit nouveau béninois, on en reparlera. 5 formations professionnelles européennes, également 90 coureurs en tout, impatients d'en découdre et de retrouver ces routes forestières essentiellement, après avoir craint l'arrêt de la compétition, le Burkinabé Paul Daumont.
On était un petit peu déçus en 2021 quand on a vu que c'était pas revenu. On s'était dit, bon, ça va, 2021, ça revient pas, 2022, ça revient. Et bim, encore en 2022, c'était pas revenu. Après, en 2022, on a eu le Tour du Faso aussi qui a été annulé en novembre 2022. Donc ça faisait vraiment deux grosses compétitions du calendrier qui étaient annulées pour nous. Donc forcément, en 2023, revenir sur la Tropicale, forcément, on est très content et très impatient.
Est-ce que vous avez cru que peut-être la Tropicale ne reviendrait pas, que les choses avaient changé? On connaît les problèmes de financement, parfois les problèmes politiques de certains pays. Vous êtes dit, tiens, peut-être qu'on a perdu une course importante?
Oui, c'est vrai que j'y avais pensé, parce que les éditions précédentes où j'étais venu, j'avais déjà entendu certains... On entendait, au fait, dans la population, quand on se baladait, que justement la Tropicale, c'était pas forcément aimé de tous et que ça coûtait énormément d'argent. Donc je me suis dit que peut-être à cause du Covid, la population ou certaines personnes avaient réussi à faire pression justement sur l'organisation pour ne pas que ça reparte. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu inquiets que ça nous fasse un peu comme le Tour de l'Espoir au Cameroun, qui est que deux éditions et puis après, disparition totale. Et donc là, on est vraiment très contents. On voit que ça reprend à la même allure qu'on l'a laissé en 2020. Donc ça va, c'est de bon augure.
Le coureur burkinabé Paul Daumont qui, malgré ses 23 ans, est déjà... Olivier Prou, un vieux routier du peloton africain. Ce n'est pas le cas de ses homologues concurrents béninois.
Ah, c'est le cyclisme qui monte en Afrique de l'Ouest, Hugo. Le Bénin a trouvé des moyens, des gens compétents pour l'encadrer, comme l'ancien coureur professionnel rwandais Adrien Nyongchuti, directeur sportif cette semaine au Gabon. On y reviendra dans la semaine. Les écureuils à vélo viennent pour apprendre donc, avec appétit, Glorad Saizonou, 18 ans seulement.
C'est impatient. J'ai entendu parler que c'est un tour professionnel, un tour au niveau de l'Afrique, et j'ai hâte d'y participer pour voir ce que je vais donner afin d'augmenter mon niveau vers le professionnalisme.
Est-ce qu'il y a une part de peur de se dire waouh, là, attention, il y a des professionnels qui viennent d'Europe, moi je débute?
Un tout petit peu le stress, aussi le profil de la route aussi, un tout petit peu. Mais comme ce n'est pas la première fois que je participe à un tour, avec l'expérience que j'ai eue aux autres tours, je pense faire l'essentiel. Les professionnels, ça va gazer sur le tour et je sais ce que ça va donner.
Donc il faut être vigilant, concentré. Est-ce qu'on rêve de gagner?
Oui, il est toujours permis de rêver et de gagner aussi. Surtout avec notre nouveau coach Adrien et les entraînements qu'on a eu à faire au Bénin avant d'y venir ici. Je pense qu'il est permis de rêver. Gagner.
Le Tour du Rwanda, la Tropicale, sont les tours qui tirent le cyclisme africain vers le haut.
Oui, le Tour du Rwanda, le Tour Amissa Bongo sont presque les meilleurs tours en Afrique, je pense. Là, c'est les professionnels qui y participent. Mais aussi le Tour du Bénin aussi tend vers le professionnalisme. Parce que le Tour du Bénin, cette année, les équipes pro viendront. Et ça va chauffer aussi.
Voilà Hugo, pour Glorad et tous les autres, l'aventure débute demain. Première étape dans le Nord, Bitam, Oyem, 121 km 500.
Merci Olivier Prou, on vous suit toute la semaine sur RFI dans la matinale et dans Afrique Midi, notamment. Bonne Tropicale à vous.
Merci.
Mondial Sport sur RFI.
Chose promise, chose due, le tennis va nous permettre de refermer en beauté cette édition de Mondial Sport et notre week-end, le tennis et bien sûr l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison à Melbourne sous les yeux de Christophe Taureau. Bonsoir pour les auditeurs et bonjour pour vous, Christophe Taureau.
Oui. Bonsoir, bonjour Hugo.
Exactement, parce que eh bien, Mondial Sport, comme son nom l'indique, hein, c'est l'émission du monde et la Terre a déjà fait un tour sur elle-même, là où vous vous trouvez, et puisqu'il est déjà le matin, on est déjà lundi matin du côté de Melbourne, l'occasion de suivre la suite des huitièmes de finale de cet Open d'Australie. On va néanmoins, si vous le voulez bien Christophe, parler de ce qui s'est passé ce dimanche, les premiers huitièmes, les qualifications de Khachanov le Russe, de Korda l'Américain, de Leka le Tchèque, aux dépens de Félix Auger-Aliassime, hein, le Canadien aux origines togolaises, et puis enfin et surtout la qualification dans le haut du tableau, donc du favori de cette partie du tournoi, Stefanos Tsitsipas le Grec, tête de série numéro 3 qui a battu l'Italien Sinner, et c'était un beau match, petit Vénard.
Ah, c'était un match absolument magnifique dans une ambiance de folie. Il y a une très forte communauté grecque ici à Melbourne, donc ils viennent soutenir Tsitsipas et il s'est sorti du piège constitué par l'Italien Yannick Sinner et son tennis supersonique. Mais chapeau vraiment à Tsitsipas, hein, qui a mené 2-7-0. L'Italien est revenu à 2-7 partout et dans la cinquième manche, Tsitsipas, qui avait été vraiment en galère avec sa mise en jeu, eh bien il a réussi à retrouver du relâchement et il s'est imposé dans ce cinquième set. Et vous le disiez, Hugo, c'est désormais le grand favori dans cette partie de tableau. En quart de finale, il va affronter la surprise tchèque, Jiří Leeka. Et en demi-finale, il pourrait retrouver le vainqueur du match entre Karen Khachanov, le Russe, et l'Américain Sébastien Korda. Ce qui est d'ores et déjà une certitude, c'est que nous aurons en finale au moins un joueur qui disputera sa toute première finale ici à l'Open d'Australie.
Une belle histoire à suivre, donc, grâce à vous, notamment sur RFI. Christophe Taureau, on passe au programme du lundi. Chez les hommes, le match du jour à suivre, le match phare, c'est bien évidemment le duel entre Novak Djokovic, qu'on ne présente plus, et le régional de l'étape, si je puis dire, un Australien, Alex de Minaur, ça promet.
Ah oui, ça promet, et surtout le mystère continue de planer, bien sûr, hein, sur l'état de la blessure à la cuisse gauche de Novak Djokovic. Alex de Minaur, c'est l'un des joueurs les plus rapides et les plus endurants du circuit, et c'est franchement peu de dire que le Serbe est en danger face à l'Australien. Et là encore, hein, le match va se dérouler dans une ambiance de dingue. De Minaur, c'est le dernier Australien encore en course, et donc on va voir si physiquement Novak Djokovic est capable de tenir le choc face à cet Australien qui va ramener toutes les balles, qui va le faire jouer, qui va lui faire jouer des coups en plus. Ça va être extrêmement difficile. Alors le match a déjà démarré en coulisses d'ailleurs, hein, puisque de Minaur avait demandé aux organisateurs à jouer dans l'après-midi afin de jouer en plein soleil, hein, et de rendre le match plus physique. Alors requête refusée par l'organisation qui a programmé ce match à la fraîche, hein, en session de soirée. Alors attention, hein, pas de polémique, hein, c'est pas pour favoriser Djokovic en tant que tel, hein, mais c'est surtout pour satisfaire les télévisions Channel 9 ici en Australie, qui veut son grand match du soir vers 21h et vers 19h pardon, et puis bah les télévisions en Europe, hein, qui peuvent proposer ce match dans la matinée et non au cœur de la nuit.
Effectivement, à mon avis, la productivité va un peu chuter du côté des amateurs de tennis en France en ce lundi matin. Et les femmes, à présent, Christophe Taureau, avant de se quitter, Rybakina, la Kazakh, qui bat Swiatek en huitième de finale, la tête de série numéro 1, ça c'est pas mal. Ostapenko, Pegula, l'américaine, et Azarenka, l'ex numéro 1 mondial biélorusse, filant en huitième, en quart de finale, pardon. Et du côté des Français, des Françaises plutôt, on attend beaucoup de Caroline Garcia. Son huitième de finale va bientôt débuter.
Oh oui, ce sera aux alentours de 3h du matin pour vous dans l'hémisphère nord. Alors ce duel face à Magdalinette, 45e mondiale, 30 ans, qui dispute son premier huitième de finale dans un tournoi du Grand Chelem, c'est franchement, hein, c'est un match plus que jouable, hein, pour Caroline Garcia. Alors ces deux joueuses se sont déjà affrontées une fois, c'était il y a près de 6 ans, c'était au tournoi de Strasbourg, c'était sur terre battue. Garcia l'avait emporté en 2-7, donc on peut pas dire que ce soit une référence très très significative. Mais vous allez l'entendre, Caroline Garcia, elle a quand même une idée assez précise de ce qu'elle va devoir faire face à sa future adversaire. Caroline Garcia.
C'est une joueuse qui est solide, très agressive et qui est présente à ce niveau-là depuis un petit moment, et elle est capable de battre des bonnes joueuses déjà dans le passé. Donc il va falloir que j'arrive à mettre mon jeu en place et que je sois agressive et que je joue avec confiance.
Caroline Garcia, la dernière chance française dans cet Open d'Australie. Elle sera opposée à Magdalinette tout à l'heure en huitième de finale du premier grand chelem de la saison qu'on suit sur les antennes de la Radio du Monde. Grâce à vous, Christophe Taureau, merci d'avoir été de nouveau en direct avec nous dans Mondial Sport. Et bon lundi à vous, un lundi au soleil, je l'espère, du côté de Melbourne. Mondial Sport, c'est fini. Merci Olivier Roux qui était à la réalisation. Je vous rappelle l'une des informations de la soirée en football en Allemagne. Sébastien Haller, qui est entré en jeu avec le Borussia Dortmund, l'Ivoirien, l'attaquant ivoirien, de retour sur les terrains après un combat gagné contre le cancer. Excellente nuit à l'écoute de RFI et excellente semaine à venir.